MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui veulent suivre cette émission « Choix du conjoint ». Pourquoi est-ce si compliqué? Donc vous êtes peut-être majoritairement célibataire, mais pas que, parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de monde. Vous êtes peut-être marié, vous accompagnez des célibataires au quotidien, ou simplement vous êtes curieux, ben soyez tous les bienvenus pour ce thème passionnant. Et selon ce que notre invité nous a dit hier à la fin de l'émission, un petit peu à controverse aujourd'hui. Donc on va voir, n'est-ce pas, Monsieur Carluère?
Oui. Avant j'étais pasteur, remarquez, maintenant c'est Monsieur Carluère. J'ai déjà descendu d'un niveau et à la fin ça sera Yvan et ça me va très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Imaginez combien je suis minoritaire sur ce plateau. S'il y a des hommes qui me regardent, soyez solidaires et puis on va laisser la parole aux femmes.
Ah, franchement, en tout cas, moi j'ai aucune idée de ce qu'il va dire. On est dans le suspense, donc moi j'appréhende personnellement. Mais bon, on suit et on est sûr que ça va être très intéressant en tout cas. Alors donc, tu feras une rubrique couple et relations et tu vas nous dire pourquoi les hommes chrétiens hésitent-ils à s'engager avec une chrétienne. Tu veux nous mettre l'eau à la bouche ou tu veux tout garder en suspense?
Les torts sont forcément partagés.
C'était ta phrase d'introduction.
Mais oui, parce qu'il y a un problème quand même. Mmh. Tout le monde souffre. Mmh. Tout le monde souffre dans cette histoire. Il y a plein d'hommes qui ne sont plus dans les églises, qui sont écœurés des chrétiennes. Il y a plein de chrétiennes qui se disent « J'ai tout bien fait. J'ai mis Dieu en premier dans tout. » Et je vis très mal mon célibat parce qu'il n'y a pas d'homme dans mon église. Voilà. Mmh. Donc je suis dans un impasse.
Oui.
Et donc, on va essayer de comprendre les causes, les conséquences et puis comment s'en sortir.
Bon, ben excellent. Jusqu'ici, tout va bien.
Absolument.
Absolument. Essayez de me rassurer. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour.
Alors, le titre de cette émission est assez intéressant, mais je trouve qu'il est très vrai, parce que des fois, on peut passer à gauche, à droite, le choix du conjoint, etc. Mais la réalité, c'est que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelqu'un, et des fois, même nous-mêmes, nous complexifions la chose. Et moi-même, je me suis mariée très jeune, donc ce n'est pas d'expérience que je vais faire cette pensée du jour. Mais par contre, à force d'accompagner des gens, de voir des célibataires autour de moi, je me rends compte que effectivement, c'est compliqué de nos jours de trouver quelqu'un. Et pourtant, c'est paradoxal parce que la femme est beaucoup enseignée. Et peut-être c'est ça aussi le problème, c'est que la femme qui est beaucoup enseignée. On entend énormément, oui, Yvan, nous allons y arriver. On attend énormément d'enseignements sur femme sage. Hein. La femme sage bâtit sa maison, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce verset vient quasiment à une conférence de femmes sur trois, c'est autour de ce thème-là. Et on enseigne énormément la femme sur le mariage. Mais par contre, aujourd'hui, le défi de se mettre en couple est plus grand qu'auparavant. Pour plusieurs raisons. Et évidemment qu'avant, les gens restaient à la maison, etc. Ce n'était pas la même dynamique, mais n'empêche que la relation est la même. Les êtres humains sont les mêmes. Nous voulons aimer et nous voulons être aimés. Ça n'a pas changé. Il y a plusieurs défis. Quelques défis que je peux partager avec vous, que j'ai pu relever comme ça. C'est d'abord c'est que les gens se marient de plus en plus tard. Alors, en se mariant de plus en plus tard, évidemment, ben, ils ont déjà bâti une vie, entre guillemets, et cherchent quelqu'un qui va rentrer dans la vie qu'ils ont déjà bâtie. Mmh. Et donc, ça devient compliqué. La deuxième chose aussi, c'est que les femmes ont plus d'acquis. Elles vont étudier plus longtemps, elles vont avoir déjà leur appartement, leur travail, etc. Elles ont déjà bâti des relations. Elles sont pas en besoin émotionnel. Donc, elles ont déjà tout ça. Et c'est comme si, parce qu'elles ont ça, il y a des hommes qui vont interpréter tout ça comme une femme qui est déjà accomplie, elle n'a pas besoin de moi, alors que ce n'est pas le cas. Elle peut avoir un travail, elle peut avoir un bon appartement, elle peut avoir plein des amis, mais elle a besoin d'un mari. Et c'est pas parce qu'elle a tout ça qu'elle n'a pas besoin d'un mari. Et donc, des fois, il y a certaines femmes comme ça, parce qu'elles ont ça, elles peuvent paraître intimidantes, et ça fait que les hommes se retraitent. L'autre défi aussi qu'on a dans cette génération particulièrement, c'est la difficulté de percevoir le cœur des gens. Est-ce que les gens sont vraiment honnêtes? Est-ce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent? Parce qu'on est tellement habitué à tout dire par émoji, c'est comme si on s'est même plus être authentique. Et combien de fois je parlais avec une sœur, on a parlé, elle m'a parlé de quelqu'un, il m'a l'air bien, et puis au bout de quelques temps, elle me revient, elle me dit, il m'a ghosté. Ça veut dire quoi? Il ne répond plus. Il a disparu dans la brume, du jour au lendemain, sans explication. Et des fois, comme ça, on a des relations qui sont superficielles, on n'arrive jamais au bout des choses. On dit des choses, des émojis avec nos téléphones, mais dans le cœur, on n'a pas de ressenti authentique, on ne dit pas réellement ce qu'on ressent. Et des fois aussi, on sait que parce qu'on ne veut tellement pas se tromper, qu'on veut tellement que ce soit parfait, parce qu'on veut tellement que ceci, tellement que cela, et on complexifie les choses et ça devient compliqué. Mais mon encouragement pour toi est celui-ci, parce qu'il y en a un. C'est que le mariage, à la base, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce de rencontrer quelqu'un d'abord, après de se plaire mutuellement, de tomber amoureux, d'avoir les mêmes valeurs, de vouloir bâtir et rester malgré les hauts et les bas et de regarder dans la même direction. C'est une conjonction de grâce, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pas ta faute. Mais il y a des choses, en fait, qui doivent se mettre en place. Et j'aimerais t'inviter, si pour toi, Yvan l'a dit tout à l'heure, le célibat est devenu un poids, et vraiment, c'est devenu un fardeau, c'est devenu difficile. Je veux vraiment t'encourager à te reposer en Dieu, tout simplement. Et de lui faire confiance. Il va te donner la sagesse. On va parler tout à l'heure des différentes choses qu'on peut mettre en place. Il y a des choses peut-être que tu pourrais mettre en place. Mais de base, de se reposer. Vraiment, il y a des gens pour qui c'est devenu une source de stress, même de honte. Des fois, il y a des milieux dans lesquels on ne veut plus aller parce qu'on ne veut pas qu'on nous demande c'est quand pour toi, c'est quand ton tour, etc. Et vraiment, enlève ça. Si vraiment c'était du stress, comme on a parlé d'anxiété, d'angoisse hier, que le célibat ne soit plus pour toi une source d'anxiété, mais vraiment, dépose-toi auprès du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira en ta faveur.
Merci beaucoup, Nadine. Alors, Yvan a beaucoup ri pendant ta pensée, donc je pense que ça fait écho à une partie de ta rubrique, c'est ça?
Deux choses. C'est une très bonne chronique.
Absolument. Merci.
Très bonne. Franchement, maintenant, c'est une chronique très féminine.
Je suis une femme, ça tombe bien.
Voilà. Et donc, dans ta chronique, et c'est très symptomatique, à la fois, c'est tout ce que tu as dit est vrai, mais c'est systématiquement un point de vue féminin sur les causes, les conséquences, et qui c'est qui souffrait, c'était la femme, et qui c'est qui ghostait, c'était l'homme, etc. Donc, en fait, il y a un biais, mais qui est naturel, en fait, et qui fait qu'on se dit, où sont les hommes? Et donc, il y a, on sous-entendu, défaillance des hommes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, je veux bien croire qu'à 30 ans, il y a défaillance des hommes, qu'à 35 ans, il y a défaillance des hommes. Ok, maintenant, remontons le fil du temps et regardons où, parce qu'à la base, il y a autant de garçons que de filles qui naissent dans les foyers chrétiens. D'accord ? Mathématiquement, tous les êtres humains sur la Terre, d'accord, il y a autant d'hommes que de femmes, à 0,0,1% près. Non, c'est une arnaque. Les musulmans ont réussi à nous faire croire un truc, c'est que, soi-disant, il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre. C'est absolument faux. C'est même l'inverse.
Ah bon ?
À la naissance, il y a 0,00 plus d'hommes que de femmes. Okay ? Les courbes se croisent avec la mortalité qui était féminine à l'accouchement, ce qui n'est plus vrai. Donc aujourd'hui, il y a exactement autant d'hommes que de femmes. Donc, dans un milieu chrétien, à la base, dans une église au Canada, au Congo, au Japon ou en Argentine, dans les foyers chrétiens, il y a autant d'hommes que de femmes qui naissent. Donc, où sont les hommes? Et ça, cette question qu'on a répondu, pourquoi ils sont partis, on comprendra pourquoi, quelques temps plus tard, on a des femmes extraordinaires, des perles précieuses de l'Éternel qui se retrouvent au bord de la route avec un peu de colère. Ouais. Voilà.
Wow. Ah, c'est intéressant cette émission.
Ben oui, mais oui. Non, on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on avance.
On va avancer. Ce que je voulais juste dire avant de continuer la discussion, c'est qu'on a fait énormément d'émissions sur le choix du conjoint. Pardon. On l'a abordé dans toutes sortes de directions. Et puis, vraiment, je crois que des fois, on peut compliquer.
Absolument.
Ouais. On a tellement de raisonnements, on a tellement eu de formations, il y a tellement de A plus B. Mais j'aimerais vous amener à Adam et Ève, tout simplement. Genèse 2, 23, c'est notre verset du jour et c'est le premier couple de l'histoire de l'humanité. L'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Donc vous me direz, bon, ben Adam, c'est facile, il en a vécu une. Il en a vécu une, je suis d'accord.
Pas le choix.
Je suis d'accord. Mais je trouve que ça simplifie les choses. Il y a des fois où il ne faut pas se poser un milliard de questions. Il a regardé l'éléphant, il a compris que non. Il a regardé le léopard, il a compris que non. Il a regardé la femme, il a compris que oui, il voulait être avec elle. Alors, encore une fois, c'était la première femme. Mais là où je veux en venir, c'est que je trouve que des fois, on fait des calculs presque mathématiques pour des choses qui fonctionnent quand même premièrement avec le cœur. Alors, je sais, on ne peut pas se baser que sur nos émotions quand il s'agit du mariage. Il faut aussi utiliser la raison, la sagesse et puis, bien sûr, une partie spirituelle de notre être qui est essentielle. Mais avant tout, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur. Et je crois que notre génération a reçu tellement d'enseignements que la recherche du conjoint se passe d'abord dans la tête. Et donc, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de questions, beaucoup de ci et de ça. Et puis, on est là, puis on va limite faire passer un entretien d'embauche au futur ou à la future, parce que ça peut arriver aussi que ce soit l'homme. C'est plus souvent la femme, je suis d'accord. Mais ça peut arriver aussi. Et en fait, on se retrouve avec une liste de critères, de questions, de choses. Et si ça ne correspond pas à 100%, éliminé au suivant. Et donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui complique aussi énormément les choses. Mais, Yvan, la bonne nouvelle, c'est que je vais te donner la parole tout de suite parce que tu meurs d'envie de parler.
Tu peux faire justice à mes frères, c'est tout.
Il mord sa langue tellement il veut parler. Donc, on va l'enchaîner avec la rubrique « Couple et relations ». Vas-y.
C'est intéressant, mais vous sentez le truc et on le sent aussi. Cet enseignement, ce surenseignement.
Oui.
Tu as commencé comme ça, tu as dit les femmes sont super enseignées, etc. Moi, j'en veux énormément aux enseignants. C'est-à-dire, j'en veux énormément aux pasteurs, à des parents. À des parents dont je fais partie. Je vous rappelle, je suis un pasteur, donc je suis un premier découpable, d'accord. Donc, je ne suis pas en train de faire la police en disant mes frères ont eu tort, moi, j'ai fait exactement les bêtises que les autres. Et j'en veux aussi aux parents chrétiens et j'en veux à toute notre théologie du couple. Donc là, oui, je vais peut-être un peu casser renverser des faux raisonnements parce que c'est pas, on a complexifié les choses de façon hallucinante. Si on reprend à la base, où est-ce que les trains ont déraillé? Puisqu'il y avait autant de garçons que de filles. Vous allez aux églises des enfants, à MLK, mais je suis sûr que c'est vrai aussi, à Plénitude et partout. À 10 ans, vous avez autant de garçons que de filles. D'accord? Prenez les statistiques, battez-vous sur les datas. Je suis sûr que c'est vrai dans n'importe quelle église jusqu'à un certain âge. Donc, à partir de l'adolescence, à partir de 12, 13, 14, 15 ans, on perd 5% des hommes tous les ans. Voilà. Donc, à la fin, on arrive à l'âge adulte, la majorité, ça dépend de votre pays, mais en gros entre 18 et 20 ans. Et là, tout d'un coup, vous avez un décalage où vous faites toutes les statistiques de qui est présent à l'église et quels sont ceux qui prennent le temps de lire leur Bible, etc., de prier. Et là, vous avez un gap. Et là, vous êtes déjà à 2/3, 1/3. Donc, où sont partis les hommes et pourquoi ils sont partis? Les hommes, ils sont partis entre 12 et 20 ans. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les églises sont beaucoup plus woman-friendly que boy-friendly. C'est beaucoup mieux d'être une fille que d'être un garçon à l'église. J'en parlais avec mon frère en régie, il avait tellement raison. Il me dit, Yvan, franchement, pendant des années, pour un gars, on lui a dit, si tu veux servir Dieu, il te reste deux choses. Soit tu fais la chorale et tu chantes, ou tu fais le musicien, soit tu deviens prédicateur. OK, prédicateur, il a compris, le gars, il fait très vite le calcul. 200 personnes dans l'église, il a une chance sur 200, hein, d'accord? On divise par deux, il a une chance sur 100 de venir. Donc il dit, là, c'est la voie, elle est bouchée déjà. Ensuite, il regarde, il écoute sa voix avec sa mue et son. Il a compris qu'il est sans espoir. Donc déjà, avec Dieu, ça va être compliqué. Donc il est en échec là-dessus. Ensuite, le gars, il a 13, 14 ans, il a sa voix qui mue, il a ses petits boutons, il a son acné, etc. Et il est la première fois in love. La probabilité qu'ils se prennent un râteau est très élevée. Très élevée. Parce que elle, c'est la petite fille de maman, elle est toute prête, etc. Elle est peut-être même en avance intellectuellement, voilà, je vous valorise, elle est plus équilibrée, elle est plus stable, elle est meilleure à l'école, elle est plus consciencieuse, etc. Lui, c'est un garçon des bois, là, on ne sait pas d'où il sort. Et donc, il fait ça, aïe, next. Et donc, du coup, ça crée chez le garçon un phénomène dans nos églises et dans les familles chrétiennes entre 12 et 20 ans qui sont des losers. Or, le premier besoin d'un homme, c'est que ça soit vrai ou pas, tu lui fasses comprendre combien c'est un gagnant et non pas un perdant. Or, tout est construit. On crée un mécanisme d'échec pour nos garçons. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous dis vraiment, moi j'ai vu mes collègues les uns après les autres, et notamment les meilleurs. OK, ils sont à 15 ans. Ils ont déjà énormément de problèmes avec la pornographie. La fille de 15 ans, on a moins. C'est en train de changer, malheureusement. Mais on a moins. Donc, elle prend la Sainte Seine tranquille. Lui, il est là, Seigneur Jésus, est-ce que je suis vraiment chrétien, etc. Donc, il est en échec. On ne se rend pas compte, mais entre les prédications sur les œuvres de la chair, ça cartonne les gars. On crée un environnement inconsciemment, légèrement hostile. Voilà, légèrement hostile. Le gars va faire plus de bêtises. Et là, tu te déclares à une jeune fille et elle, et c'est pour ça que j'en veux, elle a créé un mythe dans sa tête. Elle a créé, la jeune fille à 17 ans, a cumulé Walt Disney DreamWorks plus Jésus-Christ. Et du coup, elle a projeté, voici ce que je vaux et voici ce que je mérite. Donc, entre Walt Disney qui lui a dit qu'il doit y avoir des palpitations incroyables, quand tu vas le voir, il s'est tombé par terre, tellement il est beau, tellement intelligent, tellement, etc. Bon, ok. Si, déjà, tu vises trop, ma chérie. Mais bon, c'est pas grave. T'es encore dans l'âge fleur bleue, idéal. Plus, on lui a dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu seras à la tête. Avec Dieu. Donc la fille, elle se dit, mon mari chrétien, c'est un mix entre le pasteur international et le leader de louange à tomber par terre. Eh bien, forcément, elle dit, mais non, t'as visé un peu haut, monsieur. Et donc, il y a énormément de gars qui disent définitivement, je lâche l'affaire. Les chrétiennes, elles se voient là-haut dans le ciel, tu vois. Elles se voient là-haut dans le ciel. Est-ce qu'elles sont conscientes que c'est de l'orgueil? Je ne pense pas, parce qu'elles ont été élevées comme ça. On élève les filles dans un tel... Le mot-clé, c'est des attentes. Les attentes des femmes sont tellement élevées qu'à 20 ans, elles disent non. En plus, on avait fait des études, etc., ce qui est très bien. Moi, je suis heureux que la femme ait de plus en plus de leadership. Mais du coup, elle monte. Et là les chemins se séparent. Et je termine avec le garçon. Le garçon. Moi, j'ai vu ça parce que, tu vois, je faisais partie des gagnants quand même, de ceux qui faisaient partie à 17 ans, de ceux qui restaient, d'accord ? Mm-hmm. Donc, j'ai vu tous mes collègues lâcher l'affaire. Ils avaient pris un râteau avec mademoiselle de la gloire céleste et de la puissance d'en haut, tu vois. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas au niveau. Donc, ils sont blessés. Ils sont allés dans le monde. Ils sont allés vers une inconvertie qui est... Tu vois, c'est la même classe, tu vois. C'était dans le secondaire, c'était dans le... Ils ont 16 ans, 17 ans, à l'université. Le gars que dans l'église, toutes les filles disaient... Ça vaut rien. Il arrive en face d'une inconvertie qui ne connaît pas Dieu. Il n'ose pas trop parce qu'il vient de se prendre tellement de râteaux dans l'église qu'il n'ose même pas trop la draguer, tu vois. Il n'ose pas trop lui parler... Et la fille, elle le regarde, mais juste une petite attention. Et elle lui dit, ouais, raconte-moi tes histoires et tout, tes histoires de cœur. Et le gars, il dit, non, moi, j'ai pas d'histoire. Comment ça, t'as pas d'histoire et tout? Oh, attends, vas-y, raconte. Et le gars, il explique, il dit, bah oui, en fait, moi, je voulais bien faire les choses avec Dieu. Moi, lui aussi, il a été élevé dans l'idée du grand amour. Lui aussi, il a été élevé dans l'idéalisation. Donc, il dit à la fille, non, mais moi, j'espère que je vais rencontrer une femme, tu vois, qui sera la femme de ma vie. Je peux te dire, l'inconvertie, elle dit « Ah ! Mais lui, je le veux ! Lui, il est sérieux ! » Alors que dans l'église, le même gars, on dit « Il n'y voit rien, il n'est pas à la hauteur, c'est pas le futur grand leader de louange international. » Le même, quand il est dans le monde, quand il va à l'université, sur le banc de la faculté, la fille qui est à côté, elle lui dit « Mais toi, là ? Mais toi, t'es... » Mais j'en ai pas trouvé. Moi, j'ai rencontré que des gars légers, que des gars pas sérieux. Toutes les valeurs que le gars, il a intégrées de spirituel, c'est hyper positif dans le monde. Et ils sont croqués.
Donc, les gars chrétiens vont marier des non-chrétiennes à cause de ça.
Parce que les non-chrétiennes les valorisent 10 fois plus que les chrétiennes. Parce que les non-chrétiennes donnent ce qu'un homme a besoin en premier, c'est-à-dire, pardonnez-moi, la valorisation. Vous avez vu les langages de l'amour de Gary Chapman ? Ok. Non, le premier besoin d'un homme n'est pas le sexe ou le toucher physique. Moi, j'ai le cliché des femmes, c'est « ouais, c'est qu'une histoire de sexe, c'est pour ça qu'ils sont partis, etc. » Non. Si vous prenez, quelle que soit la culture, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, le premier besoin d'un homme, c'est la valorisation, les paroles valorisantes. C'est le premier critère. Ensuite, il y a les aspects sexualité, mais le premier critère, c'est la valorisation. C'est pour ça que la Bible dit « Femme, honorez votre mari, respectez, etc. » On n'a pas tout à fait bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est vraiment ça. C'est quand tu dis à ton mari « Chérie, j'ai de la chance d'être marié avec toi. » Le gars, il Mars et Vénus, le gars, il fait le tour de l'univers pour toi. D'accord ? Et à partir du moment où il a compris qu'il n'est pas à la hauteur, à tes yeux, qu'il ne brille pas, si ton mari comprend qu'il ne brille pas à tes yeux, il est en train de mourir. Mm-hmm. Et il y aura une femme pour qui il brillera, et ça ne sera pas toi. Mm. Et c'est terrible.
Et pour revenir au célibat, parce que c'est des très grandes vérités aussi, effectivement, pour revenir au célibat. C'est quoi la solution, alors? Parce que là, on a
un aux femmes chrétiennes.
Big problème, oui, c'est ça.
Mais aux hommes chrétiens aussi. Mm-hmm.
Aux femmes chrétiennes, moins de dessins animés et moins de paroles de « je prends, je saisis, je conquère, tout l'éternel me donnera le meilleur ». Enfin, ayez une juste appréciation de vous-même. Donc, vous êtes formidable. Vous êtes peut-être plus mature, plus chrétienne, etc. Mais apprenez, puisque vous êtes si haute, mesdemoiselles, apprenez à détecter la perle qui est à côté de vous.
Mm-hmm. Et donc, quelle est la solution, par exemple, parce qu'on parle du milieu chrétien,
oui.
Quelle est la solution pour l'Église, dans le sens où, parce que là, on a dit que, selon ton analyse, les hommes, ils partent parce
selon
que...
Mon analyse, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'accepte, absolument.
Les hommes partent, parce que je n'ai pas les chiffres, donc
oui, mais j'apprends chiffres, en même temps que toi. J'en ai tellement souffert, bien sûr.
Les hommes partent parce que de 12 à 17 ans,
ouais, même jusqu'à 20 ans.
Période, hein. Voilà. Mais techniquement, à 12 ans, parce que aussi, l'autre truc, c'est parce que les hommes aussi vont vouloir vivre de l'amour à un moment où est-ce qu'ils sont pas prêts. Et quelque part, on laisse autant que la fille regarde des Disney et rêve du prince charmant, oui. Autant que le garçon aussi, tu parlais de pornographie, est exposé à des choses, veut rentrer dans des choses, alors que c'est rare de dire à un garçon, t'as pas besoin d'une fille, t'as 16 ans, t'as 17 ans, t'as pas besoin d'être en couple pour te valoriser. Et donc, c'est sûr que si le jeune de 12 ans, de 13 ans, et commence à regarder des films ou veut se valoriser à travers une fille et que la fille le rejette, de se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fille doit l'accepter? Qu'est-ce qui se passe exactement pour que les 12-17 ans, on ne les perde pas? Parce qu'en fait, le 21 ans, là, il est attrayant à la femme non chrétienne parce qu'il a des valeurs qu'il a apprises à l'Église.
Exactement.
Voilà. Mais comment on fait à ce moment-là pour que le jeune ne parte pas dans...
L'Église ne valorise pas les valeurs des hommes? Comment ça se fait que l'Église lui a réussi à faire croire que c'est un loser?
C'est-à-dire, il croit qu'il est loser parce qu'il
a
rejeté.
Tout est fait. C'est pour ça que je vous ai dit, j'en veux à moi-même et à tous les pasteurs qui, en mettant des standards hyper hauts, fait qu'aucun homme ne trouve sa place dans ce monde-là. Et donc, il va falloir qu'on applique beaucoup plus de grâce à nos ados, gars en particulier. Beaucoup
et
plus
moi, je pense
grâce.
Qu'on doit aussi éduquer nos ados. Autant, moi, je suis d'accord avec toi, oui. Autant que Hollywood a éduqué la fille à idéaliser, et à vivre un amour qui est utopique, autant aussi les garçons, quelque part, même dans les films, on amène une image d'un gars doit être à gauche, à droite. Alors qu'un gars, c'est pas parce que t'as 15 ans, que t'as 16 ans, que t'es obligé d'entrer dans ces choses-là. Mm-hmm. Parce que le râteau, il se l'est pris à 16 ans. S'il serait revenu à 22 ans, il serait pas pris le râteau. Mm. Donc, quelque part aussi...
Non, c'est toi, 37 ans, là.
Voilà. Donc, quelque part...
Le garçon, tu vois, c'est terrible, c'est qu'après, la même femme... Pardon, je vais dire un truc, vraiment, c'est atroce, mais la même femme, moi, j'ai vu des femmes dans mon église, hein, et je le dis avec la boule au ventre. Hein. Mais si jamais elles ont le malheur de regarder en arrière... Moi, j'ai un jour une femme formidable, hein, extra belle, intelligente, superbe, qui me dit, mais... Punaise. À 22 ans, j'avais un gars qui était red dingue de moi. Mmh. Et je n'ai pas voulu le considérer parce que je me voyais missionnaire international, tu vois. Mmh. Et elle dit, mais j'ai des regrets, je suis bouffée de remords. Mmh. Voilà. Mmh. Et je lui dis, ah, waouh, mais je sentais sa douleur, ouais. Son déchirement. Et ça n'a pas fait une malheureuse, ça a fait deux malheureux. Parce que le gars, lui, il est parti dans le monde, il a divorcé, il a explosé sa vie, il est loin de... Ça fait deux malheureux.
Bien sûr.
Donc on a un vrai problème d'orgueil, on a un vrai problème d'enseignement, mmh. On a un vrai problème de valorisation. Je donne un autre exemple, le temps passe, mais tu vois, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille, une jeune femme magnifique, super belle, etc. On en a plein dans nos églises, c'est extraordinaire. Elle commence une histoire. Le garçon a des problèmes d'addiction. Il n'est pas fini, à 16-17 ans. Il en parle. Sa réaction a été défensive. Elle a dit, c'est pas tolérable ça avec mes valeurs chrétiennes. Je te lâche. Qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'ai un cri du cœur pour les femmes.
Vas-y.
J'ai un cri du cœur pour les femmes, Yvan, parce que j'entends
des
femmes...
Je les aime en plus, des femmes, je voudrais qu'ils puissent être heureux.
J'entends des femmes dire, mais pourquoi moi, je fais tout bien et je dois prendre un gars qui est, entre guillemets, en dessous, mais le contraire ne se ferait pas. Tu vois, les hommes se font rentrer dedans à cause des œuvres de la chair. Mais elle aussi, elle a des œuvres de la chair, l'amertume, nanana. Elle fait bien.
Mais ça,
elle fait
c'est moins critiqué dans les églises quand même, les œuvres de la chair, de l'amertume et de la chair.
t'as le prochain thème de ton message.
Mais tu vois un peu que tu te dis, j'ai tout fait bien. J'ai un bon travail. Je suis belle. Je prends soin de moi. mais je dois prendre le gars qui a plus ou moins.
Non, c'est trop tard.
Et alors que lui, le gars qui est plus ou moins,
c'est trop tard.
Il viendra pas pour le gars quand un gars qui a tout ça là, il va pas la fille qui est plus ou moins. Il veut aussi la top des tops. C'est dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là?
Okay, mais... Écoute, Machik, je vais vous dire encore un autre truc que j'ai constaté sur la Terre. Si vous voulez, je vais faire les proverbes, parce que je ne suis pas assez spirituel pour faire l'évangile. Je fais des proverbes. Mais tu vois, une fille qui vient, entre guillemets, du monde, qui a eu des histoires sans lendemain, qui a beaucoup pleuré. Ouais. Elle arrive, elle est belle, intelligente, elle a 19 ans, 20 ans, 21 ans. Je te dis une chose, elle arrive dans le même groupe de jeunes, ça sera la première à se caser.
Comprends ce que tu veux dire.
Est-ce que vous avez compris pourquoi ça va être la première à se caser?
Ouais.
Parce qu'elle, elle va dire « Je suis tombée dans le royaume de Dieu ici. Ouais. C'est la fête dans le village. » Alors que les chrétiennes sont là « Je suis vraiment, il est temps que Dieu puisse me donner un niveau qui m'appartient. » En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que les pasteurs, les autorités religieuses, les parents ont créé, pardonne-moi, mais un péché inconscient dans la tête des femmes entre 12 et 20 ans, qui s'appelle l'orgueil, que vous déclinez sous tous les gens. Pendant ce temps-là, les hommes avaient aussi un péché. L'immaturité qui amenait à la convoitise, qui amenait à des besoins d'estime de soi idiots, des déficits, des complexes, bien sûr. Donc, c'est un cri du cœur, ce message. Ouais. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur à toute autorité qui regarde. Je t'en supplie. Je parle à une maman qui a un garçon de 15 ans. Le garçon de 15 ans, il n'ose même pas te dire ses péchés parce qu'il a peur de ta réaction. Ben ça, c'est terrible. C'est terrible. Tu vas devoir appliquer une grâce incroyable. Tu vois, moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille et j'ai un garçon. Si je regarde juste à leurs actions aujourd'hui, je donne un 20 sur 20, un 10 sur 10 à ma fille et je donne un 5 à mon garçon. Mais en vrai, c'est physiologique aussi. Voilà. Et je trouve que et je vois mon garçon, mais quand je lui dis « Mais Ethan, t'es incroyable, t'es beau, etc. » ça joue encore plus sur lui. Voilà. Donc, je vous en supplie, valorisez vos gars. Si une jeune femme ici, je vais vous donner un seul conseil, c'est si tu rencontres un homme que t'admires pas, purée, n'y va même pas, quoi. Ouais. N'y va même pas. Parce qu'il va falloir que tous les jours de ta vie, tu lui dises « J'ai de la chance d'être marié avec toi. J'ai de la chance d'être marié avec toi. »
C'est super intéressant de vous écouter tous les deux débattre.
Quand tu dis ça après l'émission, Yvan.
C'était très intéressant. Et vous me donnez la lourde charge de la conclusion. Je vais m'affairer à cela tout de suite avec le peu de temps qui me reste. Je crois que si je résume ce que vous avez partagé tous les deux, puisque c'est une rubrique en duo.
C'était très bien.
Finalement, et c'était très bien. Oui,
c'était très bien. Selon ton analyse et selon mon analyse.
Donc si je résume, mesdames. Il y a un petit problème d'orgueil dans certains cas. Et encore une fois, je ne veux
mais
pas...
Mais plus non... maintenant, alors je ne suis pas en train de culpabiliser celles qui sont célibataires.
Non, c'est ça.
C'était avant qu'elles étaient orgueilleuses. Là, elles sont très bien et ce n'est pas juste.
D'accord. Mais non, mais on ne veut pas généraliser. Donc, si vous vous sentez concerné par rapport à ça et que vous estimez que justement, vous avez mis des critères absolument irréalistes, une pression sur votre futur mari, potentiel futur mari, bah, c'est le moment de rectifier les choses. Ouais. Et si vous, messieurs, qui êtes encore célibataires ou qui êtes même jeunes, vous nous regardez, vous êtes à la fin de l'adolescence peut-être, eh bien oui, c'est certain qu'il y a un besoin de maturité, il y a un besoin de stabilité. Et il va falloir aussi faire un effort de ce côté-là et travailler là-dessus parce que vous avez des femmes qui, généralement, maturent un peu plus vite que vous. À un moment donné, c'est censé s'équilibrer. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, eh bien, il va falloir rassurer ces demoiselles qui ont besoin d'être rassurées. Et donc, il y a une part des deux côtés, parce que moi, j'aime beaucoup l'équilibre, vous le savez, et Yvan se marre à côté de moi, mais ce n'est pas grave, je continue. Il y a une importance d'être équilibré, et je crois que, et on a chacun notre part de responsabilité dans tout ça, et particulièrement au niveau de l'enseignement. Je te rejoins, Yvan. Donc, avis aux parents, aux pasteurs, de travailler sur ces choses-là pour rééquilibrer les choses, pour éviter de partir dans ces extrêmes et puis faire finalement des jeunes qui n'arrivent plus à se marier dans l'Église parce que ça, c'est une véritable tragédie. Donc, si tout le monde, on travaille ensemble, eh bien, on va pouvoir régler ce fléau. Eh bien, c'était toute une dernière émission, Yvan. Hein. On finit fort. Hein. Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour votre vérité. Merci pour la liberté de dire des choses aussi différentes.
Ben, c'était un éclairage très, très intéressant. Et je pense que tu as apporté des points qui étaient très pertinents. Si on ne généralise pas, je trouve que c'est très,
bien
très
sûr,
pertinent.
Accepté.
Parfait. Merci à toi aussi, Nadine. Tes belles contributions. Alors demain, on se retrouve et on parle de ne pas faire semblant parce que Dieu connaît toutes choses. Et on aura la rubrique « C'est mon histoire » de Flore. Vous allez voir comment elle a passé des années dans l'église en faisant semblant. pardon, mais vous allez voir surtout sa belle rencontre avec le Seigneur. Alors à demain. Yvan, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. C'était un plaisir de t'avoir. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.